Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, la presse rapporte le cas d'un couple injustement accusé d'avoir tué leur bébé. Ce qu'on appelle le fameux syndrome du bébé secoué. C'est un drame qui remonte à il y a 4 ans, ça fait déjà un bout de temps. Et le père contre qui les accusations ont été déposées, Mario Fiorini, a finalement vu les accusations tomber. Donc, au total, ça a duré comme drame pour ces parents-là, 4 ans. Il y a eu de l'écoute électronique, il a été détenu, on a même mis sa photo dans un journal. Et ce qui est très particulier, c'est ce qui s'est passé. C'est un enfant, on l'a compris après, qui avait des enjeux de santé. Et il y a un neurologue, un spécialiste, des traumatismes crâniens non accidentels et des accidents vasculaires cérébraux qui a témoigné en faveur des parents. Et il avait, au point de départ, noté que cet enfant-là avait des enjeux de santé et que c'était probablement relié à un problème génétique. C'est très particulier. C'est un enfant qui vomissait. C'est un enfant qui faisait de la température, qui était souvent inconsolable. Et le père l'a comme échappé près du siège de l'auto. Et là, on est arrivé à l'hôpital une fois, deux fois. Et la troisième visite à l'urgence, l'enfant a fait des convulsions. Et on l'a transporté de l'hôpital de Sainte-Adèle vers Montréal. Et c'est à ce moment-là que les parents ont dû décider, puisque les traitements ne donnaient absolument rien, de mettre fin donc aux procédures médicales, et l'enfant est décédé. Et comme l'enfant est décédé, traumatisme, il y a une enquête qui se fait, il y a des intervenants qui commencent à regarder le dossier, la police est contactée, puis là on regarde ça, puis là les policiers se disent c'est syndrome bébé secoué. Puis même le coroner qui a enquêté dit ça peut pas être, il y a rien, il y a pas de signe avant-coureur, malgré le fait que ce neurologue avait déjà indiqué que c'est un enfant qui avait un problème à la base et que c'était clair qu'on aurait dû le noter, surtout depuis sa naissance, parce qu'il a passé un paquet d'examens depuis ce temps. Mais on a conclu à la clinique de protection de l'enfance de l'hôpital de Montréal pour enfants que il semble qu'on n'a pas vu le rapport du médecin spécialiste, que c'était un cas de bébé secoué. Et là arrivent toutes les procédures contre les parents, contre le père en particulier. Puis quand vous lisez ça ce matin, les policiers mettent bien de la pression, disent aux deux, c'est toi ou c'est elle ou c'est lui, là. C'est un des deux parents qui est responsable de ce qui est arrivé. Et le père a fini par avouer, mais tu sais, sous une forme de pression. Il passe un polygraphe qui le blanchit. Et là, on s'aperçoit finalement que il y avait déjà des rapports médicaux très clairs de ce médecin spécialiste qui indiquait que c'était pas un bébé secoué. Et ce médecin-là, le docteur Sébir, dit qu'il y a malheureusement trop de faux cas d'enfants dits secoués. Et ce sont des enfants qui, malheureusement, ont des symptômes avant-coureurs et des symptômes de maladie qui sont quand même assez clairs et qui confirment ce que ce spécialiste voit dans le cas du petit Lorenzo, un petit bébé comme ça qui a été malheureusement secoué. Alors, il faut évidemment être prudent. Puis je le sais, c'est déjà arrivé dans le passé que des parents se fassent pointer du doigt. Et là, la DPJ embarque, puis la police embarque. Puis c'est des fois, c'est des cas de bébés secoués. D'autres fois, des enfants qui peuvent avoir, par exemple, des marques. Puis je sais qu'il faut être prudent, là, parce qu'il y en a des enfants qui sont maltraités. mais peut-être qu'on tire rapidement des conclusions. L'autre chose, j'attire votre attention ce matin sur Le Devoir qui nous parle de violence conjugale. Bon, il y a eu ce drame qui s'est passé, Bénédicte vient d'en parler, dans l'est de l'île, une femme enceinte qui a été poignardée, présume-t-on, par son conjoint qui fait face à la justice. Mais on découvre que les immigrantes sont surreprésentées dans les maisons d'hébergement. Et à Montréal, ce serait même une majorité de femmes venant d'ailleurs, qui se retrouvent donc à Montréal, qui voient leur vie basculer et se retrouver en maison d'hébergement pour fuir la violence conjugale. Et là, vous avez les chiffres qui sont donnés par des associations de maisons d'hébergement. Si on prend le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, c'est 46 établissements. 69% des femmes de la région de Montréal et 51% des femmes de la région de Laval sont des femmes qui sont de l'immigration. Et c'est nettement, là, elles sont surreprésentées dans ces résidences pour femmes victimes de violences conjugales. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, la culture? Il y a des policiers qui déjà me racontaient que tu arrives à un endroit, puis pour certaines cultures, la police n'a pas d'affaire à se mêler de leur vie de couple, puis il a le droit de faire ce qu'il veut avec sa femme. Puis c'est comme ça que c'est compris. Alors, c'est sûr qu'il y a un enjeu là. Tu peux pas comprendre que la police cogne à ta porte ou que quelqu'un porte plainte. Il y a une pression sociale qui est exercée aussi. Je ferai pas un cours de socio là-dessus ce matin, mais c'est quand même un constat troublant de voir ces femmes immigrantes surreprésentées dans le cas de violence conjugale. On va parler du REM. Le patron du REM va être avec nous ce matin. Mais on le sait, là, 4 incidents en l'espace de 4 jours. Et ce qui amène les gens à être, je dirais, sceptiques, cyniques et à se décourager de prendre cette nouvelle option de transport en commun. Je partage avec vous un courriel que j'ai reçu la semaine dernière d'un jeune homme de 22 ans, Esteban, qui dit en fait, j'ai toujours opté pour le transport en commun. Je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de permis de conduire. Souci d'économie, souci ou préoccupation environnementale. J'ai habité très près du terminus Panama. Je pouvais me déplacer rapidement au centre-ville. Il y avait chaque matin un autobus qui passait dans mon quartier. Je me retrouvais au centre-ville de Montréal en moins de 45 minutes. Il a déménagé l'année suivante à Chambly et là, le fun commence. Alors, le service Dexo disponible à Chambly est exécrable, de piètre qualité. J'ai pensé à m'acheter une voiture, mais là, le REM est arrivé dans ma vie. Je me suis dit, bon, au moins, prendre le REM. Et il dit, le REM est passé du rêve à un cauchemar. J'arrive en retard plus souvent que je l'ai été dans les dernières années. Le service est instable, irrégulier. Il y a toute la gestion du coût de la passe mensuelle. Puis devant l'instabilité du service, tu te retrouves, comme on a vu au mille la Gauchetière, en troupeau parce que ça fonctionne pas. Les autobus se sont pas déployés. Il y a pas de voie réservée sur le pont Champlain. Il y a un foutu bordel dans l'organisation du REM. On peut comprendre que des pannes arrivent. Ça se produit dans n'importe quel service. Métro, le REM, avec votre voiture, il peut y avoir des enjeux parfois. C'est pas 100% la garantie que ça va être parfait. Mais là, ça commence à faire. Et t'auras beau avoir toutes les campagnes de publicité extraordinaires, là, quand tu ne sais plus, en te présentant sur le quai, si ça va fonctionner ou pas, ben tu trouves une autre façon de te déplacer. Et c'est encore là, ce que ça met en lumière, au-delà du REM, là, c'est l'organisation du transport en commun dans le Grand Montréal. Il y a une réalité. Les gens se sont déplacés vers des banlieues souvent plus éloignées. L'offre est médiocre dans bien des cas. Puis je peux vous parler de l'île des Sœurs, je peux vous parler dans ce cas-là de Chambly. Souvent, la rive sud, là, puis je parle pas de Longueuil, là, mais la banlieue un peu plus loin se sent desservie. Et après ça, on se demande pourquoi les gens se retournent ou se tournent carrément vers les véhicules. Et puisqu'on parle de véhicules, Radio-Canada nous dit ce matin que les demandes des véhicules électriques dépassent les prévisions d'Hydro-Québec. Alors, on sait que le gouvernement du Québec veut avoir, d'ici 2030, c'est pas loin ça, 2030, on est en 2024, 2 millions de véhicules électriques. Et ça, ça veut dire des gens qui vont se brancher pour charger leur voiture, charger les batteries. Et là, on peut faire toutes sortes d'extrapolations en disant « Oui, mais les batteries vont être plus performantes, on va pouvoir avoir une autonomie accrue. Est-ce qu'on va autant pomper d'électricité? » La réponse, c'est sûr que la demande va être plus forte. Et là, il y a toute la gestion à l'heure de pointe. Et si M. Fitzgibbon nous a sorti l'exemple du lave-vaisselle à minuit, il va peut-être nous expliquer qu'il ne faut pas charger son auto en faisant le souper. Surtout quand il fait froid l'hiver. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir des enjeux. Par exemple, la demande, c'est l'équivalent de 70 000 familles québécoises. Et le Québec est un des endroits où la demande de véhicules électriques est extrêmement forte. Les délais, il y a encore des gens là, qui font face à des délais de plusieurs mois. C'est moins pire, me dit-on, ça dépend des bannières, là. Mais quand même, c'est sûr que le Québec est, je dirais, un endroit, un marché où les véhicules électriques hybrides sont extrêmement populaires. Puis je lisais l'histoire de Hertz, qui fait de la location. Ils vont se débarrasser d'à peu près le tiers de leur flotte de véhicules électriques. Là, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi une firme comme Hertz de location de voitures? D'abord, ils disent que la valeur de revente est trop basse par rapport à d'autres types de véhicules aux États-Unis. Deuxièmement, les coûts de réparation sont excessivement élevés par rapport à d'autres types de véhicules. Puis trois, la demande n'est pas si forte. Des gens qui ont, par exemple, un véhicule électrique à la maison vont choisir un véhicule conventionnel parce qu'ils font plus de kilométrage. Ils sont dans un autre pays, mettons, ils savent pas trop où aller charger. Ils veulent pas se casser la tête. Ils sont en vacances pour deux semaines. Un paquet de facteurs comme ça. Donc, c'est sûr que ça a un effet direct là sur l'intérêt pour les véhicules électriques, en tout cas pour ce qui est des compagnies de location. On va demeurer dans l'univers des voitures. La semaine dernière, on vous parlait des vols d'auto. Le gouvernement fédéral, dans ses stratégies habituelles, prévoit un grand sommet avec toutes les parties prenantes, là, les phrases creuses qui veulent rien dire, dans une semaine, le 8 février. Qu'est-ce qui va sortir de ça? On ne le sait pas trop. Mais ce matin, on peut lire sur le site de Radio-Canada que les vols de voitures, il y a différents points de vue qui s'expriment, et notamment un différent entre les assureurs et les constructeurs. Là, on va se le dire franchement, là, quand une voiture est volée, c'est un impact pour vous et pour l'ensemble des assurés, parce qu'on partage le risque. Et quand il y a autant de voitures volées à Montréal, par exemple, c'est sûr que les primes d'assurance vont augmenter considérablement. Et là, ce qu'on découvre, c'est que, d'un côté, vous avez les compagnies d'assurance qui demandent aux constructeurs de faire des véhicules plus sécuritaires. Et on donne l'exemple des dispositions, en fait, des dispositifs, pour être plus précis, le anti-vol, qui sont obligatoires au Canada depuis 2007. Ça fait 17 ans. Et il n'y a pas eu de changement. Et que font nos bons voleurs? Ils se raffinent, développent des approches, ont des technologies différentes et sont capables plus facilement que jamais, très rapidement, de voler votre véhicule. Et surtout les véhicules qui sont stationnés sur la rue. Je parlais avec un ami en fin de semaine, un de ses amis à lui s'est fait voler son véhicule trois fois. Là, tu sais plus quoi faire, là. Tu sais, puis t'imagines l'impact sur l'assurance. Et bref, les constructeurs disent « Oui, on peut changer ça, mais ça va vous coûter plus cher comme système. » Autrement dit, il y a un enjeu important, réel, concernant non seulement le vol de véhicules, mais tout ce que ça entraîne pour l'achat d'un véhicule et pour assurer le véhicule. Puis, les manufacturiers, on va se le dire franchement, en font pas assez pour protéger davantage les véhicules. Les propriétaires sont souvent négligents. J'ai régulièrement des courriels de gens qui se plaignent parce qu'ils ont eu une contravention. Le véhicule était stationné, les portières étaient déverrouillées. Puis là, là, c'est comment ça se fait que la police vient vérifier ça, puis ils se mêlent de quoi, puis ils n'ont pas d'autre chose de mieux à faire. Tu dis, t'es un peu... Si ton véhicule est volé, là, c'est collectivement là, qu'on assume la facture des assurances. L'autre chose, on va se le dire franchement, ce n'est pas la priorité des corps policiers. L'assurance paye. Il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de décès. C'est du matériel. Souvent, c'est comme des fraudes. Je ne dis pas qu'ils font rien. Mais c'est sûr que on se déploie modestement. C'est pas plus une priorité pour l'Agence des douanes canadiennes. Dans le sens où les douaniers sont surtout préoccupés, puis là, je parle des patrons, là, par l'arrivée au Canada de drogue. C'est pas tant le départ des conteneurs qui les préoccupe, mais l'arrivée des conteneurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis est-ce qu'on on fait entrer de la cocaïne? Est-ce qu'on fait entrer des armes? Parce que, bon, c'est ça qui les intéresse. Ce qui quitte le pays, des chars volés, encore là, c'est pas la fin du monde, puis les assurances vont payer. Je voulais attirer votre attention quand même sur ce phénomène ce matin. Le Journal de Montréal nous parle du bon juge Gérard Dugré, qui, selon le conseil de la magistrature, doit être destitué. Le juge a tenu des propos agressifs, désagréables, il a un humour douteux et il tarde à rendre des jugements. Alors, le conseil, qui a un paquet de plaintes, considère que ce juge-là doit être destitué, mais il a tous les recours possibles et il a été payé avec les augmentations de salaire depuis qu'il a été suspendu, 1,3 million. Ça fait un an que la destitution a été demandée. Procédure d'appel. Puis là, il arrive, tenez-vous bien, aux 15 ans, c'est le nombre d'années demandées pour toucher sa pension. Fait qu'il va avoir le 2/3 de sa pension de juge à vie, même si on cherche à le radier depuis au moins un an. Je comprends le principe de l'indépendance, puis il ne faut pas que les juges... Mais quand le conseil de la magistrature statue tes droits, je sais que la loi a été changée, puis il y a des abus moins grands qui seraient commis. Mais il y a des juges comme ça qui ont réussi à surfer d'appel en appel, puis qui sont fait payer des sommes importantes et dans bien des cas pour aller toucher leur pension à vie. Puis quand vous faites 380 000 par année ou 400 000 par année, mettons, là, ben, le 2/3, ça fait une pension quand même qui est pas si mal. Aussi ce matin dans le Journal de Montréal, ça c'est intéressant, l'ADN. On sait que les technologies ont changé. On le voit là, un procès pour meurtre d'une jeune fille à Saguenay. Grenon, le suspect, l'accusé a été identifié grâce à cette preuve d'ADN. Là, c'est quasiment un film. Ils ont suivi au cinéma, ils ont pris des pas, ils ont fait analyser ça. Ils sont remontés dans l'arbre familial à partir de l'ADN trouvé sur place. Bref, ça donne des résultats. Et là, au Canada, le pays des licornes, on ne prend l'ADN que chez les criminels qui ont été condamnés pour des crimes violents. Alors que dans d'autres pays, on prend l'ADN de l'ensemble des criminels pour être capable justement de faire des enquêtes plus rapides, plus poussées. Il y a le sénateur conservateur Claude Carignan qui dit on est en train de défaire ou de dégriffer un projet de loi au nom de certains principes. Puis là, la question, c'est la suivante. Si vous avez un dossier criminel, est-ce que votre ADN devrait y être associé dans tous les cas pour être capable justement de remonter vers des individus qui ont commis des crimes. Jean-François Lépine sera avec nous plus tard ce matin, je vous le dis tout de suite. On va parler évidemment de ce qui se passe Israël et le Hamas. On a appris, par exemple, que les Américains blâment l'Iran pour la mort de 3 soldats en Jordanie, tout près de la Syrie. Donc, des miliciens qui s'en sont pris aux forces américaines. Ça crée énormément de tensions. Et vous avez aussi des informations qui veulent qu'un organisme communautaire rattaché aux Nations Unies, humanitaire plutôt, rattaché aux Nations Unies, aurait joué un rôle dans l'attaque terroriste du 7 octobre contre les Israéliens. ce qui a amené donc cette guerre avec le Hamas. Le gouvernement canadien suspend l'envoi de fonds à cette agence internationale. Pierre Poilievre a dit « il faut couper les vivres à cette organisation ». C'est pas la première fois qu'elle est pointée du doigt par Israël comme dépassant son mandat et ayant un rôle très actif auprès du Hamas. Alors, on va regarder tout ça un peu plus tard.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Le REM, eh bien encore des problèmes dans les derniers jours. 4 problèmes en 4 jours, interruption de service. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la difficulté de pallier à ces pannes. Et on envoie les gens, par exemple, au 1000 La Gauchetière. Il y a un enjeu d'autobus. Et Le Devoir donne des exemples ce matin de clients insatisfaits. Je vous ai donné le cas d'un jeune homme de 22 ans qui va délaisser le REM parce qu'il dit que depuis qu'il l'utilise, il est souvent en retard, que le service est perturbé, sans parler du mauvais service d'autobus tout autour du Grand Montréal. Mais ça, c'est pas dans la cour du REM. J'en parle avec Jean-Marc Arbeau, qui est le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Infra. Monsieur Arbeau, bonjour.
Monsieur Arcand, bonjour.
Pourquoi on a eu 4 problèmes en 4 jours?
Je pense que c'est effectivement une semaine avec un mauvais concours de circonstances, 4 enjeux en 4 jours. Ça n'excuse en rien la situation, là. Et puis, on est pleinement conscient des inconvénients que cela pose aux usagers. Maintenant, je peux revenir un peu sur le résumé des événements. Déjà, parlons du dernier, parce que celui de samedi, c'est pas un événement du REM. C'est le pont Champlain qui a dû procéder à des opérations de déglaçage d'urgence. Et là, on n'a pas d'autre choix que de se plier à leur décision. Et donc ça, c'est pas lié à un problème du REM. Pour les 3 autres, c'est effectivement des enjeux, les 3 fois, des enjeux de système. Essentiellement, au moins 2 cas, c'était des enjeux informatiques. Et puis pour ça, pour moi, là, nous, ce qu'on pense, c'est que, pas ce qu'on pense, des pannes vis-à-vis de ça, il y en a trop. La réponse en cas de panne, je ne veux pas rentrer dans le détail des événements, mais elle est trop longue. Et donc, nous ne sommes pas satisfaits de la performance de nos sous-traitants, là, Alstom et Atkins, sur ce sujet. Et on fait tous, ils savent très bien qu'ils doivent apporter rapidement des solutions à ces enjeux-là. Et nous, de notre côté, on essaye de les aider le plus possible pour que le système ait le niveau de fiabilité que les gens sont en droit d'attendre.
OK. Je veux juste prendre un exemple, puis vous me direz si c'est vrai ou pas. Il y a eu parmi les pannes depuis janvier, des pannes qui sont reliées avec les senseurs, c'est-à-dire les portes qui ne s'ouvrent pas, que les usagers n'ont pas accès au REM comme tel. C'est arrivé, ça?
Il y en a eu une cette semaine avec une porte palière qui était coincée, pour lequel un opérateur est venu, a remis la porte palière, mais en fait, il y a eu une erreur dans sa manipulation. Il a déconnecté, si on veut, la porte palière, ce qui a fait que ça a eu un impact plus long que prévu.
Est-ce que c'est vrai que les senseurs qu'on retrouve sur certains wagons du REM, j'allais dire tous, là, ce sont des senseurs qui sont pas prévu pour l'hiver, pour les températures froides?
Non. Là, les prescriptions techniques, etc., sur l'ensemble des senseurs, sont prévues pour les températures froides et pour l'hiver.
Donc, c'est pas un enjeu?
Non.
Et pourquoi celui de la semaine dernière n'a pas fonctionné?
C'est la porte palière qui n'a pas fonctionné. Sur l'analyse, a priori, il y a eu des problèmes de gravillon à l'intérieur de la porte palière. Donc, en fait, d'un mauvais nettoyage à cause des gravillons, etc., qui se sont mis dans une des glissières de la porte palière.
Ça, ce sont les problèmes mécaniques. Là, vous avez soulevé à peine là, la question de la gestion quand le REM est en panne. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas des gens qui dirigent la clientèle, qu'on se ramasse aux mille la gauchetière en troupeau en se demandant si les autobus vont arriver? Là? On a relevé l'automne dernier, puis encore depuis le début de l'année, de multiples problèmes de communication avec la clientèle. Je comprends qu'il y a des messages sur les réseaux sociaux de temps en temps, mais quelqu'un qui n'a pas son téléphone, il ne sait pas trop ce qui lui arrive, ou quelqu'un qui ne regarde pas son alerte, il ne sait pas trop ce qui lui arrive.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas avoir de panne, mais lorsqu'il y a une panne, la réponse du plan de relève combiné et du service aux usagers en termes de communication doit être amélioré. C'est certain. On travaille de notre côté. On travaille avec Atkins pour qu'ils améliorent et qu'ils mettent plus de gens pour pouvoir faire la communication avec ça. Et on travaille avec la RTM pour améliorer la coordination lorsqu'on déclenche un plan de relais.
Monsieur Arbault, je veux pas être plate, là, mais ça va être quoi quand le REM va prendre de l'expansion, quand le REM de l'ouest de l'île va fonctionner? Vous avez de la misère à gérer le bout entre, disons, Brossard, la rive sud de Montréal, puis le centre-ville. Ça va être quoi quand il va y avoir plus de wagons, plus de pannes, moins de services?
Non, l'objectif. On va être c'est d'avoir moins de pannes, encore une fois. Il y a certains, vraiment, d'accord, c'est une mauvaise semaine, mais t'empêche pas que là, tout ce qui est fait et toutes les améliorations, et on travaille tous les jours à ça, pour que le service soit parfaitement fiable sur cet ensemble-là. Tout ça, c'est des leçons apprises pour la mise en service du reste du
système. Je vais prendre un exemple banal. Le petit corridor, le petit tunnel là, qui mène de la place Bonaventure vers, qui traverse la rue là, vers la gare, donc pour aller prendre REM. Est-ce que le corridor est ouvert ou pas?
Le corridor est ouvert aujourd'hui pour la sortie, pas encore pour l'entrée. On travaille avec Kevrick. Oui, non, c'est pas. C'est non. Vous riez, mais c'est pas notre responsabilité. L'enjeu, c'était entre Kevrick et Cominard d'avoir l'autorisation pour pouvoir l'utiliser comme entrée. En fait, pour pouvoir l'utiliser, que ça fonctionne dans les deux sens. Pour ça, il y a une étude de sécurité qui est en cours et qui devrait être finie là. Et dans les prochaines semaines, on va pouvoir ouvrir les premiers éléments qu'on a pu avoir.
Je ris parce que je me mets à la place de l'usager. Il s'en fout de savoir si c'est le propriétaire d'un immeuble ou de l'autre qui est responsable. Il se heurte à une porte fermée. Il y a une indication, mais la porte est fermée. Et là, je pourrais faire, puis j'ai pas le temps ce matin de faire la longue liste. Ça vous concerne plus ou moins, mais c'est l'Agence régionale de transport avec un service en périphérie de merde. Il y a pas de voie réservée sur le pont Champlain. Alors, quand il y a une panne, ça devient compliqué. Le REM devait amener une solution facile aux usagers. C'est devenu une complexité pour les gens de la Rive-Sud. Êtes-vous là?
Je suis là. Mais je suis pas. On a des événements qui, cette semaine, ça n'a vraiment pas été une bonne semaine. Mais, encore une fois, l'objectif, et on sera satisfait qu'à ce moment-là, lorsque le système fonctionnera parfaitement.
Mmh. On sait pour quand.
Pardon?
J'ai dit on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. À quel moment ça va arriver?
Oh non. Pour les mesures qui sont mises en place, ou etc., je vous garantis qu'on s'attend à avoir des résultats. Et encore une fois, nos fournisseurs sont bien au courant. Il faut qu'on ait des résultats rapidement. Puis quand on se dit rapidement, là, c'est dans les prochaines semaines.
OK, merci M. Arbault. Jean-Marc Arbault est le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra. Alors, ça a été une mauvaise semaine, puis ça devrait s'améliorer dans les prochaines semaines.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, la presse nous apprend ce matin que des parents ont été accusés à tort de la mort de leur enfant, un bébé de 4 mois. Les premiers intervenants ont conclu que c'était le syndrome du bébé secoué. Or, un médecin spécialiste avait déjà indiqué que c'était un enfant qui avait des problèmes de santé. Et qu'au terme de ça, donc, on ne peut pas parler d'un enfant qui a été secoué. Le père a été accusé, toutes les procédures sont tombées, et là maintenant, les parents poursuivent les policiers, les responsables de l'hôpital de Montréal pour enfants qui ont mis l'étiquette de bébé secoué à leur enfant. La maman de Lorenzo, cet enfant de 4 mois, est avec nous ce matin, Sarah Galoupi. Madame Galoupi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Parlez-moi un peu de votre enfant, 4 mois. Est-ce que, dès la naissance, il avait certains enjeux de santé, certains problèmes de santé?
En fait, pour commencer, mon fils est né à 29 semaines. Donc, c'était un très grand prématuré. Donc, il est resté à l'hôpital là, pendant janvier, février, mars. Il est sorti à la fin mars, début avril.
Okay.
Donc, il est resté un bon 3 mois et demi. Puis, tout ce qu'on nous disait, c'était « Ah, c'est un bébé en santé. » Mais quand on y allait, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bradycardie. La bradycardie, c'est quand le bébé oublie de respirer. Donc, il faut le stimuler à ce moment-là parce qu'il ne revient pas à lui-même tout seul. Donc ça pouvait arriver, là, je vous dirais, 5-6 fois par jour dans les premiers mois. Puis il nous disait que c'était normal pour un bébé prématuré là, d'en faire autant.
OK. À quel moment là ça s'est détérioré, là, que vous êtes allé à l'urgence? Vous êtes allé plus qu'une fois, mais la première fois que vous êtes allé à l'urgence?
La première fois qu'on est allé à l'urgence, c'était le samedi 8 juin. Mon fils faisait de l'hypothermie. Il faisait à peu près 33,8 de fièvre, si je me trompe pas. Ils nous ont gardés en observation peut-être 3-4 heures. Ils ont fait des prises de sang, analyse d'urine. Ils nous ont dit, il y a une légère inflammation, ça devrait être ses dents. Donnez-lui du Tempra, puis revenez. Si jamais sa température remonte ou peu importe, sinon je vous donne un rendez-vous en relance avec son pédiatre lundi. Donc, on a écouté, on s'est fié aux professionnels de la santé, puis on est parti à la maison. Dans la journée même, son état s'est vraiment pas amélioré, il chignait. Ça a jamais été un enfant qui pleurait en tant que tel. Là. Il était pas lui-même, là, tu sais. Puis en soirée, sa fièvre a monté à 39,2. J'ai alors appelé Info Santé m'a dit de donner Tempra et de retourner à l'hôpital. Chose qu'on a fait la soirée même, et on nous a pas laissé voir un médecin en disant que le temps d'attente allait être plus de 15 heures pour un bébé de cet âge-là avec la fièvre. Vu qu'il en faisait plus, à cause du Tempra, ça pouvait attendre à la relance de lundi. Ça, c'était l'infirmière au triage. Donc, comme sa fièvre, elle avait baissé, on s'est dit, on va attendre. On est retourné à la maison. Puis le lendemain matin, 8 heures, il a commencé à faire des convulsions. À la maison.
OK. Puis là, vous êtes rendu à nouveau à l'hôpital.
Là, on est retourné à nouveau à l'hôpital. Puis l'hôpital le plus proche, ben, c'était encore Sainte-Agathe. Fait qu'une fois rendu à Sainte-Agathe, ils ont bien vu là, que c'était des convulsions. Ils l'ont mis en salle de trauma. Ils ont tenté de faire des ponctions lombaires. Je dis bien tenté de faire des ponctions lombaires parce qu'ils ont essayé 5 fois. Le même médecin a essayé 5 fois. Il y avait du sang partout. Je sais pas si vous savez c'est quoi une ponction lombaire. Il est pas censé avoir de sang. Nulle part. puis après ça, son état, il était pas capable de stabiliser. Il continuait à convulser malgré tous les médicaments qu'ils ont donnés. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont organisé le transfert à Montréal Children.
Est-ce que je comprends que votre conjoint a, je sais pas là, je prends la bonne expression, a échappé l'enfant dans le siège d'auto, il y a eu un problème?
Oui, il y a eu un petit, mon conjoint il a en fait le syndrome des tunnels carpiens. Donc moi étant hospitalisée la semaine d'avant pour un infarctus, mon conjoint était venu me voir à l'hôpital avec notre fils, puis en revenant à la maison, il l'a échappé je vous dirais là d'un demi-pied, un pied maximum. Notre enfant s'est pas réveillé à ce moment-là, il m'a écrit pour me le dire, je lui ai dit surveille son état, mais s'il s'est pas réveillé, d'après moi, on devrait être correct. Puis comme de fait, sa nuit s'est super bien passée, il a bu comme normal, rien à signaler de ce côté-là.
Ce qu'on comprend, c'est que le spécialiste, le médecin spécialiste qui a regardé le dossier de votre enfant a découvert qu'il y avait des prédispositions à développer ce genre de lésions qui malheureusement lui ont coûté la vie.
Tout à fait. J'ai une maladie qui s'appelle l'hypertension intracrânienne. Et ça s'avère que mon fils aurait eu la même chose. Puis ça, je l'avais mentionné là avant de tomber enceinte, pendant ma grossesse, puis on m'a tout dit, c'est une maladie qu'on connaît pas trop encore. Fait que ça devrait pas y avoir d'enjeu. Il devrait pas.
OK. À quel moment, bon, vous avez malheureusement dû arrêter les traitements, on le sait, l'enfant est décédé. À quel moment on s'est retourné vers vous puis qu'on a commencé à parler du syndrome de bébé, du bébé secoué?
Avant son décès.
Avant son décès?
Oui. Quand on a décidé de le débrancher, c'était le 12 au soir. On l'a débranché aux alentours de 23h54, puis il est décédé le 13 au matin. Puis nous, on était déjà enquêtés sous caméra et tout ça la soirée avant même qu'on le débranche.
Là, j'ai compris que ils sont allés fouiller chez vous. Il y a eu une filature, il y a eu l'enquête policière habituelle. Vous avez été interrogé par les policiers?
Oui, on a été interrogé par les policiers, on a été arrêté par les policiers, puis je tiens à mentionner que tout ça était sans mandat. Donc, c'est la raison pourquoi on poursuit aussi. Puis c'est ça. Donc.
Est-ce que je comprends que les enquêteurs au dossier vous ont dit ou bien c'est vous, madame, ou c'est votre mari, mais ça va être un des deux?
Oui, tout à fait. Le chapeau doit faire un ou l'autre. Choisissez à qui, mais c'est un des deux.
Est-ce que je comprends aussi que votre conjoint a comme avoué à un moment donné aux enquêteurs que c'était lui?
Il a dit aux enquêteurs, après plus de 10 heures d'interrogatoire, il a dit j'imagine que ça doit être ça. J'imagine que c'est ça qui est arrivé. Il a pas dit oui, c'est arrivé. Il a pas dit bon, j'ai fait ça. Il a dit j'imagine que c'est ça que vous voulez entendre, c'est ça qui est arrivé. Après 12 heures, il a craqué. Là, je veux dire, la pression, le tout. Surtout que moi, j'étais dans l'autre pièce à côté. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont dit tu dois choisir à qui va le blâme.
Le docteur Guillaume Sébir, qui est le médecin spécialiste, qui est un spécialiste des traumatismes crâniens, qui dit que c'est pas un cas de syndrome de bébé secoué. D'ailleurs, il y a trop de cas là où on met l'étiquette de bébé secoué. Son rapport, ses commentaires, son analyse ont pas suivi dans le dossier de la police, ont pas suivi dans le dossier de la protection de la jeunesse non plus.
C'est ce qu'on a appris dernièrement, non? En fait, là, pour être honnête avec vous, le rapport coroner a été fait le 23 septembre 2023 et on n'était pas au courant. Il n'y a personne qui nous a avisé. Le coroner ne nous a pas appelé. Docteur Sébir ne lui a jamais parlé. Donc, non, on vient de l'apprendre là, tout comme vous.
Et à quel moment on a laissé tomber, qu'on s'est rendu compte là, qu'on s'en allait nulle part avec ça?
Le 8 mars 2023, donc 6 mois avant le rapport du coroner.
Et comment vous avez su que c'était qu'on laissait tomber les accusations?
Parce que ça s'en allait, c'était à discuter, là, voir si ça s'en allait à procès ou pas entre nos avocats. Puis c'est à ce moment-là que le directeur des poursuites civiles et criminelles ont décidé qu'il abandonnait. Il faisait un non-lieu.
OK. À travers tout ça, la photo de votre conjoint a été publiée dans un journal?
Oui. En 2019.
Vous avez perdu votre emploi aussi?
Oui, j'ai perdu mon emploi au Mont-Tremblant. Puis c'est ça, la police a avoué que c'est eux qui avaient... parce que le dossier était sous-scellé à ce moment, au moment où l'article de journal est sorti en 2019. Puis en enquête préliminaire, la police a avoué avoir donné cette information-là à des journalistes pour faire pression sur nous pour que un ou deux prennent le chapeau.
Est-ce que quelqu'un s'est excusé, la DPJ, la police, l'hôpital, pour l'erreur qu'ils ont?
L'enquêteur en chef s'est excusé en enquête préliminaire, disant qu'il ne pensait pas que ça allait avoir autant de répercussions sortir un article avec son nom et son visage.
Quelle sorte de vie vous avez maintenant? Là, je comprends que là, vous avez déclenché une poursuite, là, mais vous avez perdu un enfant, puis on vous a pointé du doigt comme étant les responsables de la mort de votre enfant.
Tout à fait. Je vous dirais que les deux, on est en syndrome post-traumatique. On a été diagnostiqués. Notre vie est vraiment pas très rose là, en ce moment. Là. On vit au jour le jour en espérant que tout se finisse et que on puisse passer à autre chose.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance.
Merci beaucoup.
Au revoir. Sarah Galoupi, la maman de Lorenzo, décédée à l'âge de 4 mois.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Ben, ça fait 7 ans qu'il y a eu cette tuerie dans la Grande Mosquée de Québec. 6 personnes avaient été tuées, 19 autres blessées. Encore aujourd'hui, on va se souvenir, commémorer cet événement tragique. Et j'en parle avec Boufelda Ben Abdallah, qui est le cofondateur de la Grande Mosquée de Québec et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Monsieur Ben Abdallah, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
7 ans plus tard, qu'est-ce qu'on retient de l'événement? Qu'est-ce qui a marqué et qu'est-ce qui a changé depuis?
Si vous dites qu'est-ce qui a changé, un, dans les familles, c'est qu'ils ont perdu les leurs et des familles qui ont des blessés. Et nous avons encore un blessé paralysé sur sa chaise roulante avec les traces de 6 balles que les hôpitaux l'hôpital a extirpé, dont une balle est encore logée dans son cou jusqu'à maintenant. Donc on le voit. Il ne sent rien dans son corps à partir du sternum. Ça, c'est du côté des familles. Mais du côté de la population, c'est le contraire. Il y a un souvenir d'empathie, un souvenir de gentillesse, de retrouvailles et de découverte du citoyen musulman qui est un citoyen comme tout le monde. Je pense qu'il y a des sucrés salés ou quelque chose comme ça, mais... tout compte fait, la société a été d'une empathie extraordinaire et c'est ce que les familles ont ressenti, ils ressentent encore, malgré la douleur qui revient avec le souvenir de cette journée tragique, M. Arcand.
Ces souvenirs positifs de la réaction, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou si vous ressentez de nouvelles tensions, on peut penser au conflit qui se déroule présentement, Israël-Hamas, est-ce que ça s'est effiloché avec les années ou c'est encore aussi solide que ce l'était?
Très bonne question, M. Arcand. Je peux vous assurer que ça a continué cette empathie et cette gentillesse. personnellement, là je parle de moi parce qu'on n'a pas fait de rencontre publique pour faire revenir les gens, etc. Les gens sont tranquilles chez eux, mais nous qui sommes des citoyens, on va au marché, on va faire nos choses et que les gens nous reconnaissent dans la rue, dans les marchés, et puis ils viennent parfois, des gens viennent jusqu'à la table où je suis en train de manger pour me saluer, pour demander comment ça va votre communauté. Moi, je suis renversé positivement hein, de cette gentillesse qui continue 7 ans, imaginez, 7 ans, et les gens viennent nous demander. Ça, c'est unique, je pense, dans l'histoire, et on ne retrouvera pas ça dans d'autres pays. Donc, pour répondre directement à votre question, oui, la gentillesse continue. Mais quand il y a des conflits internationaux, on se retrouve à peu près au même point de la part d'une minorité qui nous questionne. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, on répète la même chose. S'il vous plaît, nous sommes des citoyens musulmans ici, nous vivons ici. On n'a rien à faire avec les conflits. Mais on supporte, on est solidaire de la détresse des peuples. Et cette fois-ci, dans le cas de la Palestine, c'est vrai que la communauté musulmane est solidaire avec la population palestinienne. Il n'y a pas de mal d'être solidaire avec un peuple qui souffre, comme avec les Ouïghours, comme dans le conflit russe. On est solidaire de ça. Mais on fait pas l'amalgame que nous sommes à l'origine de ça. Voici, M. Arcand, ce que je voulais dire.
Oui, c'est important ce que vous dites. L'autre point, je me souviens que quand il y a eu le procès de l'auteur de cette tuerie, plusieurs personnes ont dit il faut que ce soit un procès qui nomme les choses, c'est-à-dire que c'est un acte de terreur qui a été posé et donc c'est un crime de terrorisme. Qui a été bon et ça n'a pas été ça devant la justice. On a dit c'est pas nécessaire, la peine sera pas plus importante. Est-ce que pour vous le fait que ça n'a pas été sur le plan légal identifié comme étant un geste posé par un terroriste, un geste de terreur, c'est une erreur du système?
Moi je l'ai dit à plusieurs reprises, monsieur Arcand. Vous avez des questions ciblées, je vous remercie. Je l'ai dit on a traité ce dossier un peu à la légère du côté terrorisme. Il est rentré dans un lieu qui s'appelle une mosquée et il a tiré sur une population ciblée qui s'appelle des gens qui faisaient leur prière. Plus terroriste que ça, tu meurs. Excusez-moi, je suis tutoie, c'est pas vous. Mais donc pour nous, c'est terrorisme. Le seul qui a déclaré que oui, c'est un acte terroriste, c'est M. Trudeau. Les restes, même la junte politique n'a pas reconnu ça, et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que vous avez raison de dire qu'il faut parfois aller, même si ça fait mal, nommer les choses pour que les gens prennent acte, pour que les gens prennent conscience, et puis pour que la loi n'est pas infaillible, inébranlable. Une loi se modifie, une loi s'amende, une loi s'organise pour que d'autres événements soient bien vus, soient bien ciblés et que ça ne revienne pas. Mais si on édulcore un acte, c'est pas une méchanceté que je dis par rapport au système juridique, c'est qu'il n'a pas eu l'historique ou la jurisprudence pour dire cet acte, oui, c'est le moment de le traiter comme un acte terroriste et on va reviser la loi. Peut-être que la justice est en train de traiter ce dossier. Moi, je suis pas dans les arcanes de la justice, mais je pense qu'il est grand temps. Il faut pour que ça revienne pas et que tout soit équitable. Ce n'est pas uniquement soi-disant les musulmans qui sont terroristes. La bande à Bader dans le temps de l'Allemagne était des terroristes. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui faisaient des actes qui terrorisaient les gens et qui tuaient des masses ciblées. C'est vraiment dommage. Voilà. Je suis un peu, excusez-moi, c'est un peu effiloché, mais à mon avis, la justice pourrait améliorer le système en revisant les lois sur la question du terrorisme pour que ça soit plus clair pour les gens. C'est clair, quelqu'un qui rentre et qui tue des gens dans un lieu de façon spécifique, il est terroriste. Pas à la ligne, c'est pas En tout cas, pour moi, c'est comme ça, mais les juristes vont dire, bah, non, monsieur, c'est plus compliqué que ça. D'accord, mais faites votre chemin et donnez-nous une leçon, nous, les citoyens ordinaires. On est prêts à recevoir la leçon.
Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous ce matin. Bonne journée.
C'est réciproque. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir.
Boulfeda Ben Abdallah, qui est le cofondateur de la Grande Mosquée de Québec et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. On va parler d'immobilier, mais c'est une approche très spéciale ce matin. Un couple d'origine française installé à Montréal témoigne dans le journal Le Figaro de l'aventure immobilière et fait des comparaisons entre Paris et Montréal. Ils sont devenus propriétaires ici à Montréal en 2019. Je vous présente Camille Lemoine. Elle est d'origine française et vit maintenant ici à Montréal. Madame Lemoine, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je veux vous entendre sur votre expérience de l'immobilier à Paris. On devine, on présume déjà que ça coûte évidemment très cher.
Alors oui, mais en réalité, les prix sont stables. C'est ce que je disais juste avant à quelqu'un, c'est qu'en fait, il y a eu une baisse pendant le Covid parce que les Parisiens habitent des logements très petits. La plupart des gens, des jeunes travailleurs, ils vont vivre dans des logements entre 150 et 300 pieds carrés à peu près. Donc quand tu dois rester enfermé dans 300 pieds carrés pendant 2 ans, tu t'en vas. Donc ils sont partis et à ce moment-là, il y a eu un dip dans les prix. Et là, c'est en train de remonter parce que tu as la montée des taux d'intérêt et donc ça tend en fait le marché locatif. Donc aujourd'hui, par curiosité, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui est alloué à Paris pour me rafraîchir la mémoire. Et mon constat, c'est que c'est essentiellement les prix que j'ai connus. À l'époque, entre 2009 et 2016, j'ai loué 460 pieds carrés pour 1 800 $ par mois. Et 646 pieds carrés avec un prix d'ami pour 2 400 $ par mois. Le vrai prix de marché aurait dû être 2 550. Et c'est essentiellement les gammes de prix que je vois aujourd'hui sur les sites français.
Est-ce que ça a été, l'immobilier, une des raisons qui vous a amené au Canada?
Non, même pas.
Même pas.
On voulait un peu changer d'air, mais on est arrivé au Canada. On savait qu'on allait aller dans un pays qui avait a priori un niveau de développement au moins similaire à celui de la France. Mais on n'avait pas fait de calcul. Tu sais, c'était pas le rêve américain en se disant « Oh là là, ce sera mieux, ce sera ceci, cela ». On voulait juste vraiment changer d'air et profiter de voyager un peu tant qu'on avait encore la santé et l'énergie pour ça, de voir un peu le monde, quoi.
Et bon, vous avez été locataire, par la suite vous êtes devenu propriétaire. Est-ce que c'est plus facile d'être propriétaire, d'avoir accès à la propriété à Montréal qu'à Paris avec les banques, par exemple?
Alors, c'est incomparable. Je pense que c'est plus risqué dans le temps long, mais par contre, l'accès lui-même, l'accès au prêt ici et la rapidité des processus est incomparable. En France, une opération met au grand minimum 3 mois, parfois plus si jamais la banque lambine. En ce moment, avec la montée des taux, tu as plus qu'à peu près 25% des Français qui sont éligibles au crédit. Donc là, ça devient très compliqué. Et pour nous, à l'époque, on aurait été éligible à un prêt, mais le problème, c'était les prix à Paris qui étaient... l'appartement de 646 pieds carrés dont je parlais est parti à 900 900 $. Donc, c'est...
Ouais.
Du mal à suivre à ce prix-là, voilà. Donc, voilà, c'est beaucoup plus facile d'accéder au crédit. Par contre, les taux sont plus élevés ici au Canada. Et donc, tu cours le risque de t'endetter plus, d'être plus chargé par ton crédit. C'est vrai que l'extrême prudence des banques françaises, c'est que tu risques pas d'être surendetté vu que tu peux pas emprunter.
Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé à Montréal et vous avez payé combien?
À Montréal, on a trouvé un appartement qui fait environ 1045 pieds carrés, pardon, qui est ce qu'on pourrait appeler un faux demi-sous-sol. En fait, il était un peu moins cher parce qu'il est considéré comme un demi-sous-sol, bien que les fenestrations soient complètes. Et on a payé ça 400 000 $, sachant qu'il était listé pour 385 000. On est dans Ville-Marie, on est juste à côté de Downtown, et on a payé 15 000 $ de plus. On a eu droit au fameux système de l'enchère aveugle qui, pour le coup, n'existe pas en France, où tu te contentes d'enchérir ouvertement. Ici, c'était le système où on te dit « quelqu'un a mis une autre offre ». Je peux pas vous dire qu'ils ont mis plus, mais peut-être que oui. Et donc, tu montes, et nous, on a dit « bon, ben, on montera jusqu'à 400 000 $ », et voilà.
Et Vous avez dû rénover un peu, j'imagine?
Oui, parce que une autre raison pour laquelle c'était à ce prix-là, parce que au moment où nous on cherchait en fin 2019, on était un peu dans le début de la hausse des prix à Montréal, et donc en vrai, la plupart des appartements de cette taille-là et dans ce quartier-là étaient évidemment pas à ce prix-là. Ce qui caractérisait celui-là, c'était qu'il était un peu plus défraîchi. Il avait été rénové plus d'une dizaine d'années avant. Et souvent, les biens que je voyais dans le quartier, il y avait eu des rénovations récentes, les propriétaires les apprêtaient, entre guillemets, avant la vente. Donc c'est ça, nous, on a mis à peu près 57 000 dollars de travaux divers et variés. On a refait les fenêtres, la cuisine, enfin, bref.
Et votre appartement vaut combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'en sais rien. Des fois, je regarde, je pense qu'on serait aux alentours de 450 000 dollars parce que visiblement, il y a eu un moment où ça montait beaucoup et puis là, ça a baissé un peu à cause de la hausse des taux. Donc effectivement, on peut dire que si on inclut les travaux, on n'est pas encore revenu dans notre opération. Ceci étant dit, on n'est pas particulièrement inquiet. On est content en fait d'avoir pu accéder à la propriété tout court. On a conscience que c'est quand même vraiment une chance d'y avoir accès. Puis voilà.
Très bien, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Au revoir, Camille Lemoine, citoyenne d'origine française qui s'était établie à Montréal. Grand reportage dans Le Figaro en fin de semaine. Faisait des comparatifs, notamment que les banques canadiennes étaient plus souples et disons que moins bureaucratiques que le système français.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.